J'espère que M. Trudeau ou les ministres vont venir. Ça n'a pas de sens.
On est en train de faire tout ce qu'on peut pour accélérer les processus.
Pour sécuriser les personnes qui vont aller sur le terrain aussi, parce que c'est un risque imminent.
La réconciliation, c'est pas juste entre les peuples autochtones et le gouvernement. Ça nous implique tous.
Bonne fin de journée, tout le monde. La crise des passeports, parce que ouais, on peut vraiment commencer à parler d'une crise. Ça fait déjà des semaines qu'on vous parle de la difficulté pour des Canadiens de faire renouveler à temps leur passeport pour partir en voyage. Bien, la situation est en train de prendre des proportions telles que la tension monte dans les files d'attente au bureau de Service Canada. Les esprits s'échauffent. Il y a même un enjeu de sécurité à certains endroits. Il y a de plus en plus d'élus, même des élus du gouvernement Trudeau, qui dénoncent la situation qu'ils qualifient d'inacceptable. On va en parler avec ma collègue Fanny Lachance-Paquette, qu'on retrouve d'ailleurs devant le bureau de Service Canada au complexe Guy Favreau à Montréal. Salut, Fanny.
Salut, Michel.
Je parlais d'élus, c'est parce que le dossier s'est transporté à la Chambre des communes aujourd'hui. Enfin, diront certains.
Oui, et tu le disais, inacceptable. Hein? C'est probablement le mot qu'on a le plus entendu aujourd'hui de la part de tous, hein? Dont de la part des ministres libéraux aussi, qui cherchent des solutions. D'ailleurs, il y a la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, qui a dit que ses équipes allaient venir en renfort parce qu'on a besoin de davantage de personnes pour travailler ici dans les bureaux. Il y a la ministre Gould aussi qui est en charge du dossier, qui a dit qu'on allait vraiment chercher partout dans le réseau de la fonction publique pour trouver des personnes. On allait être ouvert aussi à la Fête du Canada, à la Saint-Jean-Baptiste pour assurer davantage de services. Et ce que l'opposition déplore, bien, c'est que ça prenne trop de temps d'agir, trop de temps avant que les choses changent, mais aussi que ce soit les citoyens qui écopent, parce qu'en ce moment, bien, les gens qui viennent ici chercher leur passeport à la dernière minute doivent en plus payer des frais supplémentaires pour l'avoir dans les 24 heures suivantes.
C'est la maison des fous. Du monde qui dort trois nuits dehors, qui paye des frais pour des retards causés par le gouvernement.
Le seul qui empêche les Canadiens d'avoir accès à un document aussi important que le passeport, c'est l'incompétence du premier ministre. La situation des passeports est une crise nationale, Monsieur le Président.
Nous avons créé de nouveaux centres pour accroître la capacité de production. Nous avons embauché 600 nouveaux employés. Nous allons en engager 600 de plus. Nous avons créé un nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne et nous allons continuer de travailler jour et nuit pour livrer plus de passeports aux Canadiens. C'est un problème. On le reconnaît et on va le régler, M. le Président.
Oui, Fanny, quand je disais que les esprits s'échauffent puis que la tension monte, bien, au complexe Guy Favreau, les frustrations sont telles que ça crée, oui, de la friction. Puis là, la police est davantage sur place pour gérer la panique puis le mécontentement.
Bien, disons que ce matin, quand on est arrivé, c'était plutôt calme, peut-être justement parce qu'il y avait 8 véhicules de police qui étaient présents ici ce matin au complexe Guy Favreau. En plus des gens de la sécurité ici à l'intérieur, il y avait énormément de gens, mais ça se passait relativement dans le calme. À cette heure-ci, presque plus personne à l'intérieur parce que les bureaux vont bientôt fermer, mais les gens attendent patiemment comme ça à l'extérieur, sous la pluie. Et ce qu'on a entendu ce matin, Michel, là, vraiment, ce sont des gens qui n'en peuvent plus d'attendre et surtout de ne pas avoir l'information nécessaire pour obtenir leur passeport.
Ça fait depuis dimanche, à 2 heures du matin, je suis ici. Puis nous, on a décidé de faire une liste. Parce que là, tout le monde se dépassait, puis tout le monde... Fait que là, avec la liste, là, aujourd'hui, mais là, ma fille était la première sur la liste, puis ils l'ont demandé. Mais il y a d'autres personnes qui vont pour partir aujourd'hui, puis je trouve ça bien dommage.
The passport lines are long because they don't know what they're doing. There's no one working here. There's a whole lot of cops to prevent people getting upset. Maybe they should just maybe open earlier, stay later. It's a busy time. I don't know.
C'est très très désorganisé parce que tu sais, mais la désorganisation de l'incompétence. On parle d'un service fédéral qui est payant aussi. Hein. C'est la désorganisation, la frustration, elle est là.
Alors, Michel, il y a des dizaines et des dizaines de personnes ici qui vont passer la nuit sous la pluie. Et la question dont on n'a pas la réponse, en fait, c'est est-ce que demain, ils auront accès à leur passeport? Il n'y a rien de moins sûr.
Merci beaucoup, Fanny. Parce que pas de passeport, pas de voyage. Alors, il y a des voyageurs, des Québécois, des Canadiens qui sont forcés d'annuler leur départ. On en parle avec le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneau. Bonsoir, M. Boissonneau.
Bonsoir, Michel. Ça va bien,
mais pour des voyageurs, ça va pas très bien. Puis ça, je pense que vous en savez quelque chose parce que j'ai l'impression que le téléphone sonne. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces voyageurs, à pas réussir à obtenir leurs documents à temps?
De plus en plus, et la catastrophe qui s'annonce, c'est que la période de vacances commence dans quelques jours. On sait au Québec, les gens prévoient leurs vacances à la fin des classes. C'est dans 2 jours, donc on s'attend à une recrudescence des téléphones et surtout des larmes, des frustrations, de la peine. Il faut savoir que ce n'est pas une raison d'annulation, Michel. Donc, les gens qui n'ont pas pris une forme de flexibilité dans leurs tarifs, ils sont pris avec une perte nette de leur voyage et de leurs sous. Donc, c'est quand même important.
Attends, ce que vous dites, donc, c'est que pas de passeport, pas de voyage, pas de remboursement. Carrément, pas une scène. Là.
Bien, si les gens n'ont pas, se sont pas prévalus de l'option de flexibilité qui a été mise en œuvre depuis la COVID, non, Michel, les gens, ce n'est pas une raison d'annulation.
Dites depuis la COVID, avec une couverture d'assurance. Est-ce qu'on peut passer ça sur une raison due à la pandémie ou la pré-pandémie?
Non, pas du tout. C'est vraiment une raison d'obtenir ces documents pour voyager n'est pas une raison de remboursement dans une assurance.
Donc, pas de remboursement, pas de crédit voyage non plus. Avec votre expertise d'agent de voyage, est-ce que... parce que vous avez vu, hein, vous attendiez la reprise, comme tout le monde dans l'industrie. Puis là, la reprise a repris de façon assez rapidement. Est-ce que vous trouvez que c'était prévisible ou on a tous été pris par surprise?
Sincèrement, dès que les mesures allaient lever, c'était prévisible que les gens étaient prêts à voyager. On le sentait, les gens tapaient du pied, voulaient partir. Les conditions s'assouplissent mondialement. Même le Canada est un des pays le plus strict qui a gardé ses conditions le plus longtemps possible. Donc, il fallait s'en attendre. Il faut croire qu'au gouvernement canadien, le 2 ans n'était pas suffisant. Mais il y a un point que j'aimerais rajouter, Michel, que je trouve extrêmement déplorable. Votre journaliste en a fait mention et on n'a aucune nouvelle d'Ottawa là-dessus. Les gens qui font la file actuellement, c'est pas parce qu'ils veulent, mais par contre, ils se font charger le frais d'urgence de 150 160 extra le coût du passeport. Je trouve ça inadmissible que le gouvernement canadien se garde pas une petite gêne à faire ça. Là.
Parce que ce sont pas des gens qui se sont prêts à la dernière minute. Là. Il y en a qui ont envoyé leurs documents il y a bien longtemps, dans les délais en fait considérés normaux. Là.
Tout à fait. Les gens ont envoyé dans les délais prescrits, ils ont fait la demande. C'est évidemment que ceux depuis le mois d'avril qui devaient faire le renouvellement se gardent une gêne d'envoyer leurs papiers parce que tout ce qu'on entend, médias, et des gens qui font la file, le pied de grue pendant des jours et des jours, ces gens-là ne veulent plus envoyer leurs documents, donc vont prendre la chance d'aller en personne. Mais en fait, ce phénomène, le frais d'urgence, c'est tout simplement à cause de la désorganisation du Canada parce qu'on n'aurait pas à payer ce frais-là initialement.
Bon, là, on peut penser qu'avec ce qui se passe, il y a des gens qui vont peut-être revoir leur destination de vacances. On se dit, on prend l'avion, ça prend le passeport. Où on peut aller? Pas de passeport. Est-ce qu'il y a encore des endroits où on peut aller à l'extérieur du Canada?
Une seule et unique à l'intérieur du Canada pour sortir du Canada. En voiture, une légère technicalité, si vos enfants ne les ont pas, sous 16 ans, voyageant avec leurs parents qui ont un passeport canadien, c'est la seule...
Donc, on peut aller aux États-Unis sans passeport canadien pour les enfants seulement?
Moins de 16 ans seulement, exactement. Seulement les enfants de moins de 16 ans, les adultes sont obligés d'avoir un passeport.
Bon, écoutez, ça va peut-être donner au moins une option pour certaines familles, mais en tout cas, c'est clairement un casse-tête en ce moment puis une angoisse pour bien des voyageurs. On vous souhaite bonne chance à vous et à vos collègues des agences de voyage pour gérer un peu la panique des gens. Merci d'avoir été avec nous. On suit le dossier.
Merci à vous. Bonne soirée.
Bye-bye. La ville de Saguenay mène actuellement une course contre la montre à la baie. Là où, on en parlait hier, hein, ce glissement de terrain a forcé l'évacuation de près de 200 personnes. Des travailleurs continuent leur expertise sur le site de la catastrophe. Ils veulent... Mais enfin, on veut vraiment éviter là-bas une catastrophe. Puis pour ça, il faut qu'ils en apprennent davantage sur la nature du sol, son mouvement. On va faire le point avec ma collègue Laurence Royer, qui est sur place ce soir, encore une fois. Bonsoir, Laurence.
Salut, Michel.
Alors vraiment, leur objectif, là... c'est d'être capable d'intervenir avant qu'il y ait un autre glissement de terrain qui semble inévitable.
Oui, ça semble inévitable selon la ville, ce second glissement de terrain. On ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas quelle ampleur ça va avoir, mais ça devrait arriver. Alors, tu l'as dit, c'est un peu une course contre la montre ou contre Mère Nature même pour les travailleurs. Donc, présentement, on est à faire des analyses. Il y a des travailleurs qui se sont affairés dans le périmètre là, derrière moi pour d'abord s'assurer que le terrain est sécuritaire pour les travailleurs. Ensuite, pour établir une stratégie, un plan d'action pour être en mesure de solidifier le terrain. Mais selon la ville, on en a pour des semaines avant de pouvoir mettre en œuvre un tel plan d'action. Et on travaille fort pour y arriver là, avant qu'un autre glissement de terrain arrive.
pour sécuriser les personnes qui vont aller sur le terrain aussi, parce que c'est un risque imminent. Donc, ceux qui veulent, les experts qui vont sur le terrain sont aussi à risque. Ce qu'on vise, c'est de consolider ce qu'on a comme périmètre. On vise davantage à le rapetisser, effectivement, pour pouvoir faire réintégrer des gens le plus rapidement possible s'il y a lieu, mais je ne fais pas de promesses là, aujourd'hui. Puis s'il y a lieu, effectivement, on pourrait agrandir aussi. Il faut être quand même conscient. Il faut dire la vérité aux gens qu'il y a cette possibilité-là aussi. Donc, pour l'instant, ça va prendre encore quelques semaines avant de pouvoir là, avoir un plan d'action là, des experts pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Bon, il y a bien sûr l'angoisse, le stress des gens qui ont été évacués et qui ne savent pas s'ils vont pouvoir retrouver leur maison. Et il y a également ceux qui vivent autour qui craignent d'être évacués.
Qui vivent autour, mais il y a aussi beaucoup de commerces, des épiceries, des pharmacies. Il y a aussi la seule animalerie de la baie. Donc, c'est stressant. Par contre, ceux à qui on a parlé ont un plan. Ils savent quoi faire si jamais on devait leur demander d'évacuer.
Depuis en fin de semaine, c'était un stress à tous les jours, autant que pour nous que pour les employés qui sont avec nous dans le commerce. C'est sûr qu'on s'attend à toutes les éventualités. On a déjà un petit peu des personnes de notre entourage, des employés qui nous ont offert leur place à la maison pour les animaux ici en cas qu'il faudrait évacuer. C'est sûr qu'on laissera personne, pas d'animaux derrière nous. Ça, c'est sûr que tout le monde va suivre.
Une pharmacie, ça ne peut pas fermer plus que 24 heures, à moins d'avoir un plan d'action puis d'avoir dirigé les gens, tu sais, pour être sûr de pouvoir donner les médicaments, servir, donner le service. Fait qu'on a déjà un local, c'est déjà réservé.
Bon, on pourrait dire qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a tellement de gens qui veulent venir en aide aux sinistrés que la Ville a mis sur pied un guichet d'aide.
Oui, parce que la Ville était submergée d'appels de citoyens qui voulaient aider. Alors maintenant, elle les redirige vers ce guichet. Il y a également une ligne téléphonique dédiée aux sinistrés. Donc, les gens sont invités à indiquer s'ils ont des meubles, des électroménagers à donner, des logements, des services à offrir également. Le but, là, c'est de centraliser l'aide pour être capable de mieux aider les sinistrés. En terminant, un petit mot aussi sur la visite du premier ministre François Legault. Il est attendu ici demain. On y sera certainement.
Tu y seras. On s'en reparle. Merci beaucoup. Bonne soirée, Laurence. Le député fédéral de Chicoutimi-Lefier, Richard Martel, est avec nous. Bonsoir, M. Martel.
Oui, bonsoir.
Je veux vous entendre tout à l'heure sur le dossier d'Hockey Canada, là. Mais d'abord, parlons de la situation. Il y a des dizaines de résidents évacués. On vient d'en parler avec Laurence. Il y a cette angoisse, hein, parce qu'il y en a qui pourraient tout perdre. Qu'est-ce qu'Ottawa peut faire pour les aider?
Bien là, présentement, Ottawa est bien au courant, bien au fait de la situation. L'important, c'est de travailler ensemble. Alors, la ministre André Laforêt, François Tremblay, député de la baie. Alors, puis aussi Mme Julie, la mairesse de Chicoutimi, de Saguenay. Mm-hmm. Alors, on travaille ensemble. Puis là, présentement, le dossier est bien en main du provincial. Alors, si le provincial décide qu'il a besoin d'aide, parce que le décret d'urgence a été émis, alors à ce moment-là, si le provincial a besoin du fédéral, ils pourront le demander et le fédéral sera là pour les aider. D'ailleurs, le fédéral, puis moi, j'ai rencontré le ministre Blair justement pour m'assurer qu'il était bien au fait de la situation et qu'il était très ouvert s'il y avait les demandes du provincial justement dans cette situation-là. Alors, il est très ouvert puis il y a de l'argent aussi
parce que
dans des catastrophes naturelles.
Il y a de l'aide pour l'instant présent, l'hébergement, aide immédiate, c'est ça qu'on a besoin, mais il va y avoir peut-être des besoins à long terme, on ne souhaite pas, là, mais ça se peut qu'il y en a qui retrouvent jamais leur maison. C'est peut-être pas 260 000 $ qui va être suffisant.
Mais là, qu'est-ce qui est difficile? Là? D'abord, c'était une zone quand même à risque et les gens le savaient après les inondations, après le déluge là, de 96. Alors, il n'y a pas de nouvelle construction qui a eu lieu dans ce territoire-là. Par contre, quand tu dis qu'il y a des risques, on ne sait jamais quand ça peut arriver. Il y a des risques, il y a des endroits où il y a des risques depuis 50 ans, puis il n'y a rien qui a bougé dans certains sols. Alors, c'est très difficile. Présentement, les citoyens, c'est très, très dur pour eux. Ils ne savent pas, ils ont des objets qu'ils veulent aller récupérer dans leur maison. Ils ne peuvent pas y aller parce qu'il y a une zone de sécurité. Ouais. Alors, puis ils sont dans l'incertitude constamment. C'est très difficile. D'ailleurs, je vais aller les rencontrer en fin de semaine.
Un calvaire qui vive avec cette incertitude.
Oui, absolument, absolument. Puis lorsqu'on a entendu parler aussi que ça peut s'apparenter de la même façon que Saint-Jean-Vianney.
Ah, ben oui, ben
c'est
là.
Certain que ceux-là qui ont vécu Saint-Jean-Vianney.
Écoute, et ceux qui ne l'ont pas vécu se sont fait raconter. Fait que,
ben absolument, on a vu quel point ça a été dramatique. Absolument, absolument.
Je vous amène sur un autre sujet. Vous êtes critique conservateur au sport. Fait qu'on va parler un peu du témoignage des dirigeants et ex-dirigeants de Hockey Canada devant le comité permanent du patrimoine hier. Ils ont été interrogés sur leur implication dans le règlement l'amiable d'une présumée affaire de viol collectif. Ça impliquait 8 joueurs d'âge junior. On a appris pas mal de choses hier, entre autres, que les joueurs n'étaient même pas contraints de participer à l'enquête sur les événements, si bien qu'Hockey Canada affirme avoir, ignorer l'identité des 8 joueurs accusés. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage et de ce qu'on a entendu hier?
Bien, moi, d'abord, il n'y avait pas beaucoup de crédibilité. Les gens qui étaient en place dans le témoignage n'étaient pas bien préparés. Je ne sais pas s'ils savaient où ils allaient, là. Mais on a posé des questions précises. Eux autres, ils ont eu de la difficulté. Ils ont dit que les joueurs n'étaient pas vraiment obligés de participer à l'enquête parce qu'il y avait une enquête indépendante dans tout ça. Et, là, à un moment donné, il y en a dit qu'il y en a 4 qui ont participé. L'autre, il a dit non, il y en a 12. Alors, il y avait un peu de confusion dans tout ça. Moi, ce qui m'amène à dire là, que tolérance zéro là, pour ces gestes-là ou le changement de culture, là, arrêtez de dire des belles choses comme tolérance zéro. Parce que là, avec ce qu'on voit de Hockey Canada, là, c'est très, très flou. Puis je ne pense pas qu'ils sont allés au fond des choses. Alors moi, je trouve ça très, très préoccupant. C'est une tâche au dossier de Hockey Canada, bien sûr, mais je trouve ça préoccupant parce que Hockey Canada a une responsabilité. Alors l'encadrement là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les dirigeants, est-ce qu'il y avait des dirigeants avec eux? On n'a pas été capable de le savoir parce que là, tout d'un coup, ils ont comme perdu la mémoire. On ne sait pas si ces jeunes-là étaient accompagnés, mais ils représentaient dans un gala promotionnel l'équipe Canada Junior qui avait remporté la médaille d'or. Alors, moi, je pense que c'est inacceptable présentement, ces choses-là.
Et quand le chef de direction sortant d'Hockey Canada dit qu'ils n'ont pas voulu balayer l'affaire sous le tapis, est-ce que vous le croyez?
Mais non, mais je veux dire, en tout cas, jusqu'à date, là, c'est pas très crédible. Alors, mais je veux juste vous amener à... C'est préoccupant, parce que vous savez quoi? Hockey Canada regroupe les meilleurs joueurs de hockey junior, puis souvent, c'est des capitaines de chaque équipe. Puis alors, à chaque fois qu'on choisit un capitaine, c'est parce qu'il est discipliné, il sait où aller, il y a du leadership.
Et il y a une bonne fiche.
Il y a un événement comme ça. Il y a une bonne fiche, mais surtout aussi, quand il est capitaine d'une équipe, tu sais, je ne dis pas qu'il était tout capitaine tous capitaines de l'équipe.
Mais il faut donner l'exemple quand on est capitaine.
C'est l'élite. Puis là, l'autre chose aussi, là, si vous êtes le père de cette jeune fille-là, là, c'est quelque chose, là. Il va y avoir des répercussions peut-être tout au long de sa vie à cette victime-là. C'est terrible. Puis quand on dit tolérance zéro, puis là, encore une fois, oui. La transparence n'y est pas. La transparence n'y est pas. Puis là, écoute, c'est présentement très malheureux, puis c'est vraiment pas bon ce qui se passe.
Et ces joueurs-là qui vont poursuivre leur carrière vont être...
Mais moi, je crois qu'il y a une enquête présentement de la Ligue nationale. Là. Il y a une enquête en cours. Puis moi, je ne serais pas surpris que la Ligue nationale sévisse tout à l'heure.
Donc, ce n'est pas terminé, ce dossier-là. On va le suivre. Merci beaucoup, M. Martel, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Merci. Bonne journée.
C'était la dernière journée d'audience publique aux États-Unis. On en a appris énormément, en fait, sur ce qui a amené à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et sur l'organisation de cette tentative de coup d'État. Et là, tout pointe vers Donald Trump et les faits sont accablants. On en parle avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin, experte en politique américaine. Bonsoir, Valérie.
Bonsoir, Michel.
Alors, on s'est concentré sur la pression que Trump a mise sur les élus des États où il espérait être déclaré gagnant.
Oui, fait qu'on est allé un petit peu plus loin de la date du 6 janvier. On est vraiment allé dans les semaines, les journées suivantes, la fameuse élection qui ne s'est pas décidée, je le rappelle, le jour même. Hein. Ça a pris 5 jours avant qu'on déclare Joe Biden vainqueur. Après, il y avait de la pression. Pourquoi? Pour justement qu'on renverse les résultats au sein même des États. On appelle ça surtout les États pivots, donc des États qui pouvaient pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Arizona, il y a eu des pressions aussi au Nevada, on peut s'en rappeler. Bref, on s'est vraiment concentré sur ce qu'ont dit les avocats, les gens autour de Donald Trump et même l'ancien président lui-même qui a fait certains appels téléphoniques, certaines pressions auprès d'élus pour leur faire changer d'idée ou pour essayer de trouver une petite faille dans le système. Pour empêcher toujours la certification de la victoire de Joe Biden.
Un témoignage qui a fait beaucoup de vagues, c'est celui du président de la Chambre des représentants de l'Arizona.
Oui, tout à fait. Un témoignage très crédible. Donc, un républicain qui a été, écoutez, harcelé. Il y a eu une tonne d'histoires qu'il a racontées. Son nom est sorti comme quelqu'un qui voulait pas, qui n'était pas un vrai républicain, qui voulait pas empêcher la certification. Il a dit, écoutez, j'ai fait une promesse à qui? Aux Américains, aux gens qui ont décidé de m'élire, à la Constitution américaine. Et on me demandait de poser des gestes d'empêcher une certification sans preuve. On me parlait de théorie et jamais on m'a donné de preuve. Et l'effet de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont manifesté devant chez lui, des gens qui se sont présentés armés. Il a été traité de pédophile. Sa famille a été attaquée. Bref, toute une histoire pour cet homme-là qui a dit, écoutez, j'ai juste fait mon travail, j'ai voté pour Donald Trump. Mais si ce n'est pas lui qui a gagné, je ne peux pas renverser le résultat d'une élection, peu importe qui me téléphone, peu importe qui va me faire des pressions.
Un nom qui est connu et qu'on a entendu encore aujourd'hui, c'est Brad Raffensperger. C'est à lui que Donald Trump a demandé de trouver des votes, là.
Oui, le fameux appel. Hein? L'appel où on a dit ben, « Trouve-moi 11 000 quelques votes et on va pouvoir gagner ». Bon, il n'a jamais trouvé ces votes-là. Et ce qu'il a dit en commission, en audience, c'est qu'il n'y en avait pas de votes. Dans l'appel, on le refait entendre aux gens. Il disait aussi « Bon, il y a des gens morts qui ont voté ». Il dit « Non, on en a juste trouvé deux ». Il y a des milliers de votes qui ont été déchiquetés. Il a dit « Non, Monsieur le Président, il n'y en a pas eu ». Alors, on s'est concentré sur l'état de la Géorgie où il y a énormément de pression encore à ce jour, en disant qu'il y a une espèce de théorie où on s'échangeait soit des valises, qu'on s'échangeait là, des documents illégaux, qu'on avait déchiquetés, des bulletins de vote, mais finalement, on n'a jamais pu trouver de preuves, ni en Géorgie, ni dans les autres États qui étaient contestés par le camp Trump.
Ce qu'on constate, c'est que les États-Unis sont plus divisés que jamais, mais les Républicains commencent à être aussi divisés. On a vraiment l'impression qu'il y a deux camps hein, qui se forment, les pro-Trump et les autres.
Oui, parce que Brad Raffensperger, que tu viens de mentionner, il y a aussi Rusty Bowers de l'Arizona, j'en parlais tout à l'heure, ce sont des républicains. Brian Kemp, gouverneur de la Géorgie, très à droite, très républicain. La seule chose qu'ils ont décidé de faire, c'est de ne pas aller avec cette théorie un peu du complot qu'on avait renversé l'élection. Et ce que ça leur coûte? Ça leur coûte des votes en ce moment. Ça leur coûte aussi d'avoir toutes ces conséquences par la voix de l'ancien président. Bref, on voit qu'il y a un clivage des MAGA, Make America Great Again, et des autres.
Les jours d'audience, c'est donc terminé. On verra ce que ça va donner, tout ça. Valérie Beaudoin, merci beaucoup.
Merci, bonne émission.
À bientôt. Au retour, la porte de l'Union européenne semble ouverte pour l'Ukraine. On en parle avec mon collègue Étienne dans un moment. Guerre en Ukraine, mais on apprend aujourd'hui que les pays de l'Union européenne sont tous d'accord pour que l'Ukraine en devienne membre. On va faire le point avec mon collègue Étienne Fortin-Gauthier qui a suivi le dossier. Salut Étienne.
Bonjour Michel.
Alors, c'est quand même un développement majeur. Oui. Les dirigeants des 27 pays membres se sont dit d'accord. Il n'y a pas eu de vote encore, là, mais ils se sont dit d'accord. C'est très, très, très symbolique.
Ben absolument. Aujourd'hui, c'est une déclaration des 27 ministres des Affaires étrangères, des 27 pays membres de l'Union européenne qui disent qu'il y a un consensus total sur l'adhésion comme candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Et ça, évidemment, ça viendrait avec plein d'avantages si, évidemment, ça voyait le jour éventuellement de l'aide économique. Il pourrait accéder à un marché, le marché européen notamment. Le président Volodymyr Zelensky, aujourd'hui, qui a réagi en disant qu'il y avait besoin de cette adhésion-là à l'Europe et que ça serait vraiment au niveau solidaire, de la solidarité européenne, ça serait une symbolique supplémentaire. Mais il s'attend, par contre, à une réplique de la Russie.
Ben oui.
Bon. Militaire même au cours des prochaines semaines pour montrer son opposition à cette décision-là.
Parce qu'il faut dire que accéder à l'Europe, à l'Union européenne, ça se fait pas comme ça, là, c'est pas juste un vote, c'est un long processus.
Il y a des pays qui attendent depuis maintenant 15 ans pour accéder à l'Union européenne. Donc, c'est le cas notamment de la Turquie, de la Serbie, de l'Albanie qui attendent depuis plusieurs années. Et juste l'étude là, pour accéder à l'Union, il y a plusieurs critères, notamment la stabilité du gouvernement et de ses institutions. C'est pas facile d'évaluer ça alors qu'on a affaire à un pays en guerre. Est-ce qu'un processus accéléré est possible? On verra, parce que cette semaine, il va y avoir d'autres rencontres avec les dirigeants des pays de l'Union européenne.
Bon, avant de terminer, parle-nous de cette colère du côté de la Maison-Blanche qui dénonce la position russe envers deux Américains que la Russie détient en ce moment.
Qui ont été faits prisonniers, Alexander John Robert et Andy A. Hoon. Ils sont dans la trentaine. Et là, Washington trouve aujourd'hui épouvantable d'entendre que la Russie refuse d'écarter la peine de mort pour les deux prisonniers. C'est des propos d'un porte-parole russe là, du Kremlin qui a dit que dans les deux cas, ils sont pas admissibles à la Convention de Genève qui protège justement les détenus lors d'une guerre. Dit que ce sont les tribunaux qui vont trancher et qui pourraient éventuellement même faire face à la peine de mort. Les États-Unis qui dénoncent ça disent que justement, ce sont des prisonniers et qu'ils ont des droits.
Merci beaucoup, Étienne. Merci. À plus tard. Pensionnats autochtones, bien, il y a un nouveau chapitre qui va commencer à s'écrire dans le nord du Québec. La communauté de Chisasibi qui va fouiller l'île de Fort-Georges à la recherche de sépultures. Il y a eu des établissements là-bas jusqu'en 1980. On va en discuter avec notre collaborateur, Alexis Wawanoluat. Bonsoir, Alexis.
Quoi, Michel?
5 sites ont déjà été identifiés sur l'île. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se trouvait sur place dans le passé?
Bien, on avait 2 pensionnats, un catholique et un anglican. Ça a été 2 des sites les plus importants au Québec pour les pensionnats indiens. Il est très possible qu'on trouve justement des corps de petits-enfants parce qu'on le sait, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensionnats, les enfants sont pas revenus. Donc, ça, malheureusement, on peut s'attendre à ce que ces recherches-là arrivent à conclusion que c'est des sépultures aussi.
Mm-hmm. Oui. On a parlé ensemble de toute la question des sépultures ailleurs au pays l'année dernière, en fait. Puis je me souviens, moi, tu m'avais dit il faut s'attendre à ce qu'il y ait des fouilles en territoire québécois. C'est la première communauté autochtone, si j'ai bien compris, du Québec à confirmer des fouilles sur son territoire.
Oui. Puis il y a d'autres sites de pensionnats au Québec. Il y a Wahatmaliotenam à côté de cette île. Il y a aussi le pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, proche d'Amos, où il y avait eu beaucoup d'Anishinaabe. Le pensionnat de la Tuque, qui est un autre pensionnat où il y a eu beaucoup d'enfants autochtones qui ont été là-bas. Il reste à voir maintenant avec les communautés qu'est-ce qu'ils veulent décider de faire. Parce que
c'est un processus. De prendre sa décision.
Oui, c'est aux communautés de prendre la décision. Puis c'est un processus qui peut rouvrir des plaies qui sont vives. Hein. On parle de personnes qui sont survivantes d'abus physiques, de civisme mentaux, où on leur a inculqué la honte de leur propre identité. Donc, ces communautés-là font les consultations avec les survivants de ces camps de concentration. C'est plutôt ça qui est la réalité. Camp de concentration, n'oublions pas, le seul crime de ces enfants-là, c'est d'être né autochtone.
Et on n'a pas à imposer à ces communautés-là de retourner comme ça, rebrasser tout ça si elles ne le veulent pas. C'est pas un hasard si l'annonce est faite aujourd'hui. 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Mm-hmm. Parle-nous brièvement de l'importance de cette journée-là pour les peuples.
C'est une journée super importante. C'est la journée la plus longue de l'année. C'est un moment spirituel et festif qui est là depuis des centaines d'années chez les peuples autochtones. Il y a des fêtes qui se passent un peu partout. Je vous invite à aller consulter le site Internet de la Journée nationale des Autochtones pour savoir s'il y a quelque chose par chez vous. Il va y avoir aussi des célébrations, le grand solstice à APTN. Donc, c'est un autre moment pour apprendre plus sur la culture des Premières Nations.
Bon, et bien sûr, Justin Trudeau a voulu souligner cette journée-là. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours?
Bien, j'ai lu sa déclaration. On est dans les bons mots, dans les bons sentiments. Il faut dire quand même que le gouvernement fédéral a amené des avancées qui ont été importantes dans la dernière année. On n'a qu'à penser à la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones qui a été incorporée dans le corpus législatif fédéral. Toute la question des jeunes autochtones, la protection de la jeunesse aussi, le gouvernement fédéral a fait beaucoup d'avancées là-dessus. Je souhaite que le gouvernement du Québec s'inspire de toutes les belles avancées qui ont été faites aussi par le fédéral pour que cette question-là de la réconciliation ne soit pas juste un objet théorique, qu'on puisse vraiment se dire qu'on est réconcilié un jour.
Alexis, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée, les peuples autochtones.
Léonie,
bye-bye.
Ça veut dire merci à Abenaki.
C'est peut-être votre cas cet temps-ci de l'année. Vous êtes peut-être dans les boîtes de déménagement en vue du 1er juillet, mais avec les logements abordables qui se font trop rares, certains vont devoir se résigner à vivre dans des tentes. Oui. Et la ville de Montréal, bien, démantèle ces temps-ci presque systématiquement ces campements de fortune qui sont mis en place pour des raisons de sécurité. Selon les intervenants sociaux, ça ne fait en fait que fragiliser ces populations. Il y a mon collègue Emmanuel Leroux-Néga qui a suivi le démantèlement d'un camp la semaine dernière.
Moi, j'étais là deux semaines. Ils m'ont évicté de là parce que j'étais avec un motorisé. Ils n'ont dit pas de véhicule moteur qui tolérerait les tentes. Fait que c'était une autre belle menterie. Fait qu'ils sont arrivés là une semaine après, ils ont tout démantelé. Il y a le monde n'a pas grand-chose, puis qu'est-ce qu'ils ont, là? On y enlève. T'sais, on te met dehors de dehors, là.
On se positionne fortement contre les démantèlements des différents campements. C'est un ménage qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive ici avec la machinerie et tout ça, et le matériel qui est encore sur les lieux lorsque les personnes sont parties, lorsque les personnes ont quitté les lieux, bien, ils sont ramassés et jetés au vidange. Donc, les personnes, en plus d'être déracinées d'où ils étaient, dans un milieu qui s'était tranquillement bâti, ils perdent en plus plusieurs effets personnels. La personne qui décide de venir, qui est en situation d'itinérance, qui décide d'habiter dans une tente, c'est loin d'être des conditions idéales, et ça, on est d'accord là-dessus. Cependant, la personne, dans les choix qu'elle perçoit avoir, c'est son meilleur choix à ce moment-là.
C'est génial. C'est comme... mon loyer me coûte pas trop cher. Là, présentement, j'accueille une à deux personnes qui dorment dans ce motorisé-là. Sinon, il serait probablement à la rue, là. Puis c'est ça. Il y a eu tellement de démantèlement que le monde s'achoue de s'installer. Puis l'aide sociale, à 760 $ par mois, essayer de loger quelqu'un avec ça, là.
On sait le contexte de crise du logement, de l'abordabilité présentement. Donc, pour les personnes en situation d'itinérance, de précarité, de pauvreté, c'est encore plus difficile de trouver un logement. Mais aussi, à Montréal, il y a un contexte très difficile présentement. Il manque beaucoup de places en hébergement d'urgence dans les refuges. Il y a plein de lits qui ont fermé à cause de la COVID, les mesures de distanciation, des lits qui ne vont pas réouvrir. Donc là, les personnes se retrouvent à avoir pas vraiment d'autre choix que d'être en campement. Puis la ville, au lieu d'avoir une réponse de compassion puis de tolérance, elle décide de démanteler les campements pour des raisons de sécurité.
Chaque cas est unique. Si il y a un risque qui est jugé important, imminent, mais à ce moment-là, c'est les CIM, les services incendie Montréal, qui doit agir pour une question de sécurité. C'est clair qu'il faut comprendre que les campements urbains, ce n'est pas une solution durable, pérenne, ce n'est pas une solution qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que les personnes puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin.
Les camps comme ça, c'est des lieux, pour vous, qui sont plus sécuritaires que si les gens sont en itinérance ou ils sont dans des lieux isolés?
Des gens où, à tout le moins, on est en mesure de savoir où ces personnes-là sont. On est là à ce moment-là pour elles, on est là pour les accompagner vers différentes démarches si elles le veulent, d'amélioration de la qualité de vie et tout ça. C'est beaucoup plus facile aussi pour sa sécurité, contrairement à lorsqu'elles sont démantelées et elles vont dans d'autres endroits où elles sont plus cachées. Là, c'est difficile non seulement de les retrouver, puis à ce moment-là, c'est une situation d'urgence, bien souvent, les personnes ne seront pas retrouvées, puis malheureusement, c'est arrivé trop souvent qu'il était trop tard.
Le docteur Horacio Arruda, du temps qu'il était directeur national de la santé publique, aurait empêché la diffusion de données sur le cancer du côté de Rouyn-Noranda. En fait, c'est Radio-Canada qui a révélé cette histoire-là. Le docteur Arruda aurait fait retirer d'un rapport un annexe dans lequel on tissait des liens là, entre l'espérance de vie des citoyens d'un quartier de Rouyn-Noranda et la présence d'arsenic dans l'air. On en parle avec la députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien. Bonsoir, Mme Lessard-Terrien.
Bonsoir.
Pour le bénéfice un peu des gens là, qui connaissent peut-être pas très bien Rouyn-Noranda, expliquez-nous la situation qui concerne en fait directement la fonderie Horn.
Oui, dans le fond, Rouyn-Noranda qui s'est construit là, autour de la fonderie Horn, la fonderie qui est en place là, depuis le début des années 30. La fonderie, en fait, qui émet beaucoup de polluants dans l'atmosphère, 98 % de l'arsenic qui est émis dans l'air au Québec est émis à Rouyn-Noranda. Ça fait jaser. Depuis 2019, là, il y a une étude qui a été faite sur la population de Rouyn-Noranda pour constater en fait les effets sur la santé des gens. On s'est aperçu en 2019, au mois de mai, là, on révélait que nos enfants étaient imprégnés avec quatre fois plus d'arsenic dans leur système que les enfants des groupes témoins. Et là, quand on a eu le rapport d'études de biosurveillance en septembre 2019, bien, on avait l'ensemble de l'étude, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement... Voilà, il manquait un bout. La direction de la santé publique régionale jugeait pertinent d'ajouter les données sur l'incidence du taux de cancer du poumon. Mais finalement, le national s'est mis les deux mains dans le rapport et a demandé de retirer les données sur l'incidence du cancer du poumon à Rouyn. Bien, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et c'est extrêmement frustrant. Pourquoi on est venu censurer une information d'aussi haute importance pour les citoyens et les citoyennes de Rouyn-Noranda, c'est absolument scandaleux. Et en mai dernier, finalement, ces données-là ont été rendues publiques, et non seulement sur l'incidence du taux de cancer, mais sur l'espérance de vie à Rouyn-Noranda qui est diminuée de 5 ans par rapport au reste du Québec, les bébés qui naissent trop petits. Si on avait eu cette information-là en 2019, je suis persuadée que la mobilisation citoyenne, la mobilisation des acteurs du milieu aurait été différente et on aurait pu aller chercher des engagements beaucoup plus fermes de la part du gouvernement pour encadrer les activités de la fonderie et que ça se fasse pas au détriment de la population.
Donc, petit résumé, en septembre 2019, c'est là qu'on dépose le rapport, mais l'annexe en moins, parce qu'on dit que du côté du Dr Arruda, on voulait laisser entendre qu'il retirait le document pour l'intégrer à une plus grande étude un peu plus tard. Mais finalement, c'est en mai de cette année qu'on a les détails de ça et... Bien, pas mal d'années plus tard, on fait quoi rendu là? Qu'est-ce que vous demandez pour la suite des choses?
Bien, maintenant, on sait. Avant, on pouvait laisser planer le bénéfice du doute. Est-ce que les incidents sur la santé, c'est à cause de la fonderie? Maintenant, on le sait. Alors là, il faut arrêter de niaiser, pardon, mais il faut poser des gestes concrets et ambitieux. Il faut que le gouvernement rétablisse le lien de confiance avec la population, parce que je peux vous dire que le lien de confiance, il est fortement ébranlé à l'heure actuelle. Et on veut savoir, le gouvernement va prendre le bord de quelle équipe? Celle de Glencore, celle de la fonderie, les profits de la multinationale, ou celle de la santé de la population à Rouyn-Noranda, où on a des gens qui sont extrêmement inquiets pour leur santé à l'heure actuelle.
Oui, et on comprend avec les données que vous, les informations que vous nous avez données. Est-ce que, vous, dans le fond, on comprend que le politique et la santé publique, il y a eu un problème, là? Il y a quelqu'un qui a tiré davantage la couverture de son bord, c'est ça?
Bien, absolument. Pourquoi est-ce que... C'est quoi les intérêts du directeur national de santé publique de camoufler des données comme celle-là sur l'incidence du cancer du poumon? C'est totalement inacceptable et ça remet une fois de plus en question ce double rôle-là que joue le directeur national de santé publique, le rôle de sous-ministre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'il y ait plus de transparence.
Rôle qui a été également remis en question par la coroner Jeanne Kamel. Émilie-Lise Therrien, Lessard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Ça me fait grand plaisir. Bonne soirée.
Au revoir. La comédienne Ade Casabonne va tenter une nouvelle fois de décrocher un siège à l'Assemblée nationale. Elle va se présenter pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription d'Iberville. C'est le fief de Claire Samson qui a décidé de ne pas se représenter. Elle avait déserté la CAQ pour joindre le parti d'Éric Duhem. On se souvient, Ade Casabonne a tenté de se faire élire en vain dans Marie-Victorin. Elle avait récolté seulement 10 % des voix. C'est ce soir que les Cataractes de Shawinigan entrent en action au tournoi de la Coupe Memorial. C'est à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. L'équipe va affronter les Hurricanes d'Edmonton. Il y a mon collègue Olivier Caron qui est sur place. Salut, Olivier.
Allô.
C'est tout un défi, là, ce soir, qui attend les Cataractes.
Oui, parce que les All Kings d'Edmonton, champions de la Ligue de l'Ouest, c'est une attaque dévastatrice, une des meilleures attaques au Canada dans la Ligue canadienne de hockey là, cette année. Et du côté des Cataractes, on joue un peu le rôle des négligés dans ce tournoi-là, même si on est champion de la LHJMQ. Il y en a plusieurs qui voient les Cataractes un peu là, comme l'équipe qui pourrait peut-être causer des surprises, mais aussi qui pourrait se faire sortir assez rapidement. Du côté des Cataractes, on est habitué à ce rôle-là parce qu'au cours des séries, c'est le rôle qu'on a eu dans plusieurs rondes, notamment en troisième ronde contre les Remparts de Québec. Et même chose en finale de la LHJMQ contre les Islanders de Charlottetown, où plusieurs encore là pensaient pas que les Cataractes réussiraient à soulever la Coupe du Président. Je vous laisse entendre là-dessus joueurs et entraîneurs là, qui parlent justement du rôle des négligés.
Écoute, on vit très bien avec ça. Je veux dire, le nombre de fois qu'on l'a entendu pendant les playoffs, je pense que personne nous a vu jouer avec notre alignement complet durant la saison. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on avait un rôle de négligé, mais nous, on sait ce qu'on est capable de faire puis on sait ce qu'on vaut. Fait que je pense qu'on... Je veux dire, ça rentre dans une oreille puis ça sort de l'autre. Là.
Plus vivant que ma voix actuellement. Je sens qu'ils sont dans une meilleure condition, tant physiquement que mentalement. Mais pour vrai, on est excités. Elle dit de jouer la game 1 contre Edmonton ce soir. Ça va être un excellent challenge. On en est conscient. C'est une excellente formation qu'on affronte.
Ouais, bon, ça se passe, on le rappelle, du côté du Nouveau-Brunswick à des heures de route de Shawinigan. Est-ce que les Cataractes vont quand même pouvoir compter sur l'appui de quelques supporters? Est-ce qu'il y en a qui ont fait la route?
Assurément, j'en ai même croisé qui sont partis à minuit hier soir pour finalement arriver ce matin. Il y en a d'autres qui sont arrivés en fin d'après-midi. Autant des partisans que des membres de famille de joueurs. Et ça, ça n'a pas surpris les joueurs lorsqu'on leur en a parlé là, ce midi après l'entraînement, parce que tout au long des séries éliminatoires, les partisans qui ont suivi l'équipe, même en finale à Charlottetown, qui est encore plus loin que Saint-John ici au Nouveau-Brunswick. Pour les joueurs aussi, ça peut être facile de se laisser impressionner par tout ce qui se passe ici. Il y a beaucoup d'attrait, il y a beaucoup de médias sur place. Du côté de l'entraîneur, on dit que la gestion du stress, la gestion des émotions sera primordiale dès le début du match ce soir.
Plus les jours avançaient, plus on était excités, plus là, matin, on ressent vraiment peut-être un petit peu de nervosité, comme c'est sûr, là, mais il va falloir le transformer en excitation ce soir.
Je suis un peu stressé, mais je pense que c'est une bonne nervosité. Il va y avoir beaucoup de monde pour nous regarder, fait que ça va être vraiment le fun.
Moi, je pense que tu réalises pas l'ampleur de la Coupe Memorial tant que tu la vis pas.
Donc, le match d'ouverture des Cataractes qui débute dès 18h ce soir.
Ben bon match, Olivier, puis on te retrouve au fil 22 ce soir. Merci beaucoup. Bye-bye.
Au revoir.
L'orchestre de l'Agora à Montréal et son chef Nicolas Ellis préparent le Gala pour la Terre. C'est un concert qui vise à amasser des fonds pour l'environnement et les enfants. Le concert mettra également la célèbre contralto Marie-Nicole Lemieux donc de l'avant. Il y a ma collègue Camille Lorrain-Desjardins qui les a rencontrés en pleine préparation.
Qui dit environnement dit notre futur, puis les enfants, c'est notre futur aussi.
On est présentement à la Maison symphonique de Montréal où va avoir lieu mercredi le Gala de la Terre pour les enfants. Il y avait eu une première édition en 2020, mais le concert avait dû être annulé pour des raisons que vous connaissez. Alors cette année, c'est comme une grande première. Je suis venue assister à une répétition.
C'est un grand événement bénéfice pour des organismes environnementaux comme le Sierra Club, qui œuvre beaucoup dans le milieu maritime et conservation de la nature Canada, ainsi qu'un troisième organisme, UNICEF Canada. Évidemment, il y avait aussi l'idée d'organiser un grand concert où on rassemble des musiciens d'un peu partout. C'est un orchestre formé de plein... de l'Orchestre de l'Agora, évidemment, mais aussi plein de musiciens qui œuvrent dans les différents orchestres du Québec, donc au Saguenay, à Rimouski, à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, ici à Montréal avec l'Orchestre métropolitain, des musiciens à la Pige. Donc vraiment, ça représente tout l'écosystème musical québécois. Et lors de ce concert-là, on présente la troisième symphonie de Mahler, qui est une symphonie pour plus de 200 musiciens et choristes qui sont rassemblés sur scène. Il y a un chœur d'enfants, un chœur de femmes, un orchestre de plus de 100 musiciens. Et on va avoir l'immense bonheur d'avoir avec nous Marie-Nicole Lemieux.
C'était pour moi une occasion parfaite. Puis en plus, l'invitation venait de Nicolas Ellis, que j'aime beaucoup. Et puis en plus, il m'a offert de faire la troisième symphonie de Mahler, qui est un de mes compositeurs préférés.
C'est une symphonie qui a une saveur du cosmos. C'est quelqu'un de très spirituel qui s'est posé beaucoup de questions sur la vie, sur notre raison d'être comme être humain. Et cette symphonie-là, il a essayé de traduire en musique la création de l'univers, rien de moins.
C'était la symphonie, je pense, qu'il fallait choisir pour le thème. Parce que justement, Mahler a voulu, je ne sais pas, s'inspirer de tout le monde, de tout l'univers qui l'entourait. Et donc, par exemple, il y a un mouvement où il dit « Ce que me racontent les montagnes, ce que me raconte la forêt, ce que me raconte la nuit. » Ça, c'est là que j'apparais. Le défi, c'est de créer une tension, de faire sentir justement cette sensation de nuit, cette sensation de l'humain qui se demande où est-ce qu'il s'en va, qui est fatigué, mais qui essaie, qui espère.
Alors, c'est vraiment une symphonie qui raconte énormément de choses. Et c'est la plus longue symphonie du répertoire, 1h35, 1h40. Et c'est vraiment un voyage qu'on a trop peu l'occasion de vivre. Alors, c'est ce que les musiciens et le public vont pouvoir vivre.
Hé! Hey, bravo! Belle première lecture! Bravo, Sébastien!
Retrouve Étienne. Bonsoir, Étienne. Alors, notre verre de lait avec nos biscuits ou notre cappuccino ou latte va nous coûter peut-être un peu plus cher parce que le prix du lait augmente.
Oui, exactement. Ça va. Deuxième hausse en un an qui est annoncée aujourd'hui par l'Association des producteurs du lait canadien. Il y en avait une en février de 8 %. Là, une nouvelle, le 1er septembre, de 3 %. Concrètement, ça veut dire une dizaine de sous de plus cette année qu'on va payer le litre de lait. Tout ça, c'est à cause de quoi? Bien, l'inflation qui amène l'inflation. Mm-hmm. Les producteurs de lait qui disent que ça coûte plus cher pour alimenter les animaux, l'engrais, le carburant. Donc, c'est nous, les consommateurs.
Et là, si le prix du lait augmente, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont faites avec du lait.
Le domino.
Le prix va augmenter. Exactement. Ça n'a pas paru beaucoup aujourd'hui, mais l'été est commencé.
Oui, c'est commencé, mais ça va rester grisounet pour les prochaines semaines. au moins jusqu'à la mi-juillet. Ensuite, on va avoir un bel été chaud.
À mi-juillet?
Oui, c'est ce que... ça va être grisounet jusqu'à la mi-juillet. Okay. Saint-Jean sous la pluie, c'est ce qu'on nous prévoit, les météorologues. Mais la fin de l'été devrait être beau, disent les prévisions.
On me dit que ça va être correct pour tes vacances, Michel. Merci. Oui. Et ce soir, tu reviens sur la
crise des passeports. On va avoir un invité là-dessus.
22 h, on regarde ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde, même si c'est gris. On se retrouve demain, 17 h. Bye-bye.